Cette semaine, on parle avec une femme d'action, une femme de cœur, une femme de tête. On jase là avec Guylaine Proulx. Donc, on est avec Guylaine Proulx à Péribonka, face à la rivière, et on va discuter. Bonjour Guylaine, ça va bien?
Bonjour Pierre.
Guylaine, toi, t'es pas native de Péribonka?
Non, moi je suis une fille de Dolbeau.
T'es née à Dolbeau?
Oui.
Fait que t'as grandi là.
Oui.
C'était comment ta vie de famille, tes parents, la relation que t'avais avec tes parents, comment t'as été élevée?
Ben moi, je suis issue d'une famille... ouvrière. Mon père travaillait comme plusieurs pères à l'usine Domtar à l'époque, à Dolbeau. Moi, je suis la huitième, la cadette d'une famille de huit enfants. Sept filles, un gars, en passant. Ça fait beaucoup de filles, pas de, juste un gars. Puis vraiment, vraiment, la cadette, j'étais un petit peu celle qu'on n'attendait pas. Mon frère avait 7 ans. Ma mère pensait qu'elle n'aurait plus d'enfants. Elle avait 42 ans quand elle m'a eu. Alors, passé toute ma jeunesse à Dolbeau, puis une belle jeunesse, une belle ville. Puis j'ai commencé aussi là au secondaire à m'impliquer. J'étais dans la troupe de théâtre Les Oranges avec Denise Gay,
ma voisine.
Chorale Papillon avec Fernand Bernard. Fait partie de presque tous les comités. J'ai été vice-présidente de l'association étudiante à Jean Dolbeau.
Tu vas trop vite pour moi. Je suis pas encore rendu là. Moi, je veux parler de tes parents. Comment ils t'ont... Comment ils t'élevaient, tes parents? Qu'est-ce qu'ils t'ont donné? C'est le legs que tes parents...
Je dirais, c'est sûr qu'une famille ouvrière, là, pas une famille, mais qu'on a toujours eu, bien sûr, tous nos besoins étaient comblés. Une éducation basée sur les vraies valeurs, le partage, la solidarité, aider le plus petit que soi.
C'était encore très religieux à ce moment-là?
Oui, ma mère était assez religieuse, comme probablement toutes les mères
de cette époque-là.
De cette époque-là. Oui, c'est ça là-dessus. On avait un chalet sur le bord de la Chamouchouane à Saint-Méthode. J'ai passé des vacances estivales tout à fait idylliques. C'est peut-être pour ça que je suis toujours restée avec le goût de l'eau, d'avoir de l'eau en avant de moi.
Ta mère, est-ce qu'elle travaillait ou c'était une mère à la maison?
Non, c'est une mère à la maison. Puis, bien sûr, étant la cadette pas mal, puis j'étais un petit peu là l'enfant, sans dire être un enfant là gâté pourri qui pouvait taper, faire le bacon à terre ou non, pas du tout. Mais la petite sœur qu'on traînait, qu'on amenait, qu'on était fiers de montrer, mes sœurs travaillaient, tu sais, puis là, ben quand ils gagnaient des sous, ils m'achetaient des affaires, ils m'achetaient du linge, puis ils m'achetaient des toujours été très,
avec
très
quelle gâté. Différence? On t'avait 7 ans avec avec la plus vieille, t'avais combien?
La plus vieille, j'avais 20 ans. Regarde, imagine-toi quand la sœur la plus vieille, elle s'est mariée, j'avais 2 ans.
OK.
Et elle a eu un bébé à laquelle j'ai un neveu qu'on a 3 ans de différence.
Hey, hein?
Fait que, tu sais, ça a été...
Ton rapport avec tes frères et tes sœurs, est-ce que ça se passait bien justement parce que tu étais l'enfant prodigue?
C'est sûr que je disais, bon, quand j'étais jeune, là, j'étais un peu, bon, comme mon frère, on avait 7 ans différents. Quand j'étais tout petite, là, lui, un exemple, bon, il avait 8-9 ans, quand j'ai marché la première fois, par exemple, il avait dit à ma mère, c'est le plus beau jour de ma vie.
Oh, wow!
Mais quand j'ai eu, mettons... 10-12 ans, puis que lui, ben mettons que lui, il avait 15-16 ans, puis moi, j'avais 7-8 ans, là, j'y tombais royalement sur les nerfs. Mes sœurs, ben je jouais dans leurs affaires, je jouais dans le maquillage, je mettais des bouts, des souliers, je mettais des Kleenex dans le bout pour emprunter en cachette les souliers de mes sœurs. Je prenais, quand je suis venue un peu une taille là d'adolescente que je pouvais porter du linge à mes sœurs, je partais avec du linge en cachette, j'allais chez un ami, puis je m'habillais, puis là, il disait, t'as encore mis mes affaires? Bon, ça a été... Puis il y avait une chose Quand mes sœurs se mariaient, là, je pleurais tellement parce que, tu sais, il y en a tout le temps une qui peut acheter la dernière et tout oui.
Mais parce bon. Ça signifiait aussi à l'époque quasiment qu'elle quittait la maison.
Oui, ah, pour moi, là, c'était comme un deuil, là, puis il serait plus à la table. Puis, bon, maintenant, malheureusement, il y a eu des décès. J'ai deux sœurs de décédées, puis mon seul frère est décédé aussi. Ça a été une période un petit peu difficile. Maintenant, je suis un petit peu, sans prétention, je suis un petit peu le phare de la fête. Tu sais, mes sœurs ont beaucoup confiance en moi. Je suis un peu l'organisatrice. Bon, peut-être te dire, depuis, ma sœur aînée est décédée à 46 ans. Et ça avait été d'un cancer.
C'est mon âge.
Ouais. Et ça avait été on l'avait accompagnée toute la famille. Ça l'avait. Fait qu'un an après, suite à ça, ça avait été triste. J'avais décidé de faire ce que j'appelais un congrès de sœurs. Dans ce temps-là, je demeurais dans une coopérative d'habitation à Alma. Puis j'avais envoyé une invitation à mes sœurs et à ma mère en disant on va avoir un congrès 3 jours/semaine, une fin de semaine juste à nous, pas d'enfants, pas de beaux-frères, pas de. Puis, écoute, j'ai fait ça la première fois en 1985. Et au moment où on se parle, cette année, ce sera notre 35e. Regarde, on n'a pas manqué une année.
Wow!
On a toujours fait ça. Une fin de semaine, mes sœurs, on fait un congrès. On a fait des voyages, on est allé une fois une semaine à Paris, on est allé dans le sud, des fois on fait un petit forfait à Charlevoix. Mais souvent, c'était une qui était présidente, une des sœurs. Puis, on passait la fin de semaine, donc des jeux, des foleries, de la danse, de la musique. Et ma mère a fait, jusqu'avant qu'elle décède, ma mère a fait presque 25 à 30 congrès avec nous.
Wow! Fait que t'es encore très proche là, de ta famille. Oui.
Et ça, il y a un compte rendu à chaque année depuis 1995. Même l'année passée avec la pandémie, on l'a fait ici. Donc ça, c'est... Puis, mes sœurs et sœurs étaient plus vieilles. Souvent, eux autres, il y avait des jeunes enfants. Moi, je n'avais pas encore. C'était vraiment la fin de semaine de ressourcement, de relaxation, de faire les folles, danser, chanter.
Revenir aussi, j'imagine, sur vos souvenirs du passé.
Oui, il y avait tout un thème. Tu sais, bon, tu te rappelles-tu tel mononcle? Puis comment, tu sais, un mononcle qui avait 13 enfants, on est-tu capable de nommer les noms des 13 enfants? Wow. Ben, j'en aurais l'air à raconter. Puis à chaque année, ben un petit compte-rendu que c'est moi qui écris que à chaque congrès, qu'est-ce qui s'est passé. Puis,
c'est donc un beau leg pour ta famille, tes sœurs de garder ça, cette tradition-là. Créatrice de tradition en plus de tout ce que tu as fait de ta vie.
Moi, ça, d'un point de vue familial, je suis assez heureuse de ça. Puis même dans les neveux, les nièces, les petits... On ne dérangera pas notre mère puis ses sœurs, ils sont en congrès. Les beaux... Tout le monde... Tu sais, c'était les maris qui s'occupaient des enfants pendant que les sœurs Proulx étaient avec leur mère en congrès.
Un peu comme quand les gars partaient à la chasse.
Oui. Puis vraiment, le premier, là, j'avais fait ça comme un vrai... Bon, il y aura des ateliers de tricot, il y aura la conférence. C'était toutes des farces, évidemment. Là. Mais ce qui s'en est passé, des choses assez congrès-là.
C'est drôle. Fait que là, toi, tu es allé à l'école à Dolbeau.
Oui.
T'étais comment comme étudiante? T'étais-tu une bonne étudiante?
Sans prétention, oui, j'étais une bonne étudiante. Là, j'étais pas mal toujours dans les premières. Peut-être là, à la fin, en secondaire 4 et 5, où on faisait plus notre jeunesse, là, c'était... Mais primaire, c'est sûr, je gagnais souvent les prix là, de première ou deuxième position. Ça allait bien, puis j'étais une fille qui... j'adorais l'école. Moi, quand l'école recommençait, là, c'était jamais un problème. J'avais hâte de recommencer l'école.
Quand est-ce que c'est à cette époque-là, c'est l'époque aussi des premiers amours, j'imagine?
Oui, bien oui. Oui, c'est vers l'âge de 15-16 ans. J'ai des je n'en ferais pas personne.
Non, mais c'est correct, mais ton adolescence, c'est ça. T'as des beaux souvenirs.
J'ai eu une jeunesse là, tripante. J'étais une fille de gang. Une grosse gang d'amis. Comme je te dis, à Jean Dolbeau, j'étais vice-président de l'association étudiante. J'étais dans les Oranges. À chaque année, il y avait un voyage de fin d'année. Probablement comme on reconnaissait un leadership, parce que souvent, à l'époque, le directeur adjoint disait « Bon, ben Guylaine, tu vas aller, puis je vais te nommer responsable de ça. » On m'a confié des responsabilités assez jeunes. L'autre chose aussi... mon beau-frère Georges Maziade. Georges Maziade, qui est un homme d'affaires, un commerçant de Dolbeau qu'on connaît bien, était marié avec ma sœur Jeanne Mance, là, qui, elle, est décédée à 46 ans.
Okay.
Puis, Georges a eu des magasins, il a eu un restaurant, le Café chez Robert. J'ai beaucoup travaillé pour lui.
Okay.
Puis, j'étais un peu... Puis, même l'âge à 14-15 ans, là, je m'occupais des achats du magasin. Toute cette expérience-là, je pense, me prédisposait à avoir un jour une carrière en gestion. Parce que j'ai géré des... Tu sais, j'avais 16-17 ans, il y avait un restaurant. Quand il partait en vacances, c'est moi qui gérais le restaurant, le personnel, faisait les horaires, tout ça. Fait que ça a développé chez moi une débrouillardise. Là.
J'ai l'impression, avec ce que tu me racontes, que tu es quelqu'un aussi qui sait bien s'entourer, de choisir les bonnes personnes pour t'accompagner là-dedans.
Oui, oui, puis... tu sais, j'ai des amis là, que j'avais quand j'étais en Jean Dolbeau. Je suis assez... Peut-être pas des tonnes, mais assez fidèle en amitié, puis toujours eu une vie sociale assez active, même après, quand j'ai commencé à faire ma vie avec Christian Pelchat. On est un couple là, qu'on a reçu des amis, qu'on a fait des parties, qu'on avait des idées pour... On est des gens qui aiment le monde.
Ben oui,
là, c'est pour ça qu'on trouve ça dur un peu, de ce temps-ci-là. Tu sais, moi, mettons, je suis un peu pour ma famille, je suis un peu le point de rassemblement dans le temps des fêtes. Moi, depuis que ma mère est décédée, tout ça, c'est un peu moi qui ai pris le relais de ça. Puis, bien sûr, ben là, c'est difficile à cause de la COVID, mais évidemment, ça reviendra à un moment donné.
On espère, on souhaite. Christian, tu l'as rencontré comment, ton conjoint?
Bon, Christian, écoute, Christian, c'était une famille, les Pelchats. Moi, je restais sur la rue des Cèdres, à Dolbeau.
OK.
Puis les Pelchats, c'était une famille aussi de 9 enfants. Nous autres, on était 8. On s'est toujours côtoyés parce que c'était des gens sur la même rue. Bon, moi, Christian Pelchat, je le connais depuis toujours parce que c'était un ami à mon frère, à ma sœur, parce que véritablement, on a 10 ans de différence.
OK.
Donc, tu m'aurais dit à 14 ans... Guylaine, tu vas te marier avec Christian Pelchat, tu sais, j'aurais dit, ben, c'est pas possible.
Impossible.
Mais, gars, on s'est connus. Moi, j'avais 24 ans, lui, 34, puis qu'on a commencé à sortir ensemble, puis bon.
Donc, mais là, il y a un moment donné, l'âge a moins d'importance.
Non, c'est ça. Donc, là, vois-tu, depuis 1983 qu'on est ensemble, donc ça fera 38 ans cette année.
Wow, quand même. Mm. Avez-vous eu des enfants?
Oui, j'ai un fils de 33 ans, Vincent. Okay. Ça, c'est sûr que, comment je dirais, dans les étapes de ma vie, ça serait une des plus belles.
Ben,
malgré que quand tu fais carrière, des fois, c'est difficile de concilier carrière et mère de famille. Mais aujourd'hui, c'est le plus beau cadeau que la vie m'a donné, mon fils Vincent. Oui.
Tu le vois-tu encore régulièrement?
Oui, on a une très bonne relation. Il est à Québec. Il est dans le domaine de la logistique du transport. Puis, toujours à cause de la pandémie. Surtout depuis qu'on était à la retraite, là, on allait régulièrement. Lui venait souvent ici. On a une belle relation. C'est le fun.
Es-tu grand-mère?
Non,
pas
encore? Malheureusement,
pas encore,
non.
Peut-être
non.
Pas. On n'en parlera pas. Non, mais je ne le savais pas, donc je pose la question.
Non, je ne suis pas grand-mère. C'est sûr, j'aimerais ça, mais gars, c'est pas de mon affaire. C'est à lui à décider si un jour il aura ou non des enfants.
Je te rassure, j'ai eu mon premier à 35 ans.
Christian avait presque 40 ans. Fait que on a eu Vincent. Donc,
C'est pas perdu. Et là, on revient dans le passé. Là, toi, tu finis ton école secondaire ici. Et là, tu quittes pour l'université? Tu quittes pour l'extérieur? Qu'est-ce que tu as fait?
Moi, c'est sûr que comme j'étais assez bonne à l'école puis je voulais faire des études, j'ai quitté en 76 pour le cégep de Jonquière. Je suis allé faire, moi, une technique en travail social.
OK.
Cégep de Jonquière, moi, là, je veux dire, toute ma vie, j'ai eu des belles années, mais une période où j'ai eu du fun, où j'ai embrassé la vie à plein bras, où cégep université.
Ouais.
Caroline, que c'était des belles années. J'aimais apprendre, donc...
T'avais côté... le côté intellectuel qui se développait, puis en même temps, t'avais tout le côté de la filiation avec les amis.
Puis, tu sais, peut-être plus à l'université, là, mais tu sais, mettons, l'implication militante, je m'étais rapprochée du groupe protection de la rivière Achomouchouane. Tu sais, j'ai commencé les groupes communautaires. En tout cas, toute cette interpellation de justice sociale, tout ça, c'est vraiment un cégep université que j'ai développé ça.
T'as développé cette fibre-là.
Alors, j'ai fait une technique en travail social, et quand j'ai terminé, il n'y avait pas d'emploi. J'avais fait un stage, là, dans une... comment qu'on appelait ça à l'époque? C'était le bureau où on s'occupait de l'aide sociale, là, de rencontrer les familles, tout ça. J'avais fait un stage, là, puis ça m'avait pas vraiment... Tu sais, je trouvais que... côtoyer toujours la misère humaine, la pauvreté. J'étais plus ou moins à ça. Alors là, j'avais été engagée sur un projet par la Sûreté du Québec. J'étais mademoiselle préventionniste à l'école. J'avais fait toutes les écoles de tout le comté Roberval. Les policiers m'accompagnaient. J'avais une mallette dans ce temps-là. C'était des diaporamas. Là.
Ouais.
Puis là, je rencontrais toutes les jeunes dans les écoles primaires. Puis je leur parlais qu'il fallait pas faire de vandalisme, puis qu'il fallait pas voler le bien d'autrui. Puis c'était toute une question sur le civisme. Ça, c'est, j'ai bien aimé ça.
Wow! C'est une belle révélation. Ouais.
Mais là, comme... je pourrais compter une anecdote, par exemple. J'ai fait ça pendant longtemps, puis à un moment donné, il avait ouvert un bar à Delbeau qui s'appelait Le Petit Québec, puis c'était un de mes chums qui avait ça. Puis bien sûr qu'on aimait bien les parties puis tout ça. Puis on s'était fait pogner à 4h30 du matin par les policiers.
Avec qui t'accompagnais?
Fait que là, quand ils ont vu mademoiselle préventionnée, ce qui était... Donc, il y avait une deuxième phase qui était prévue, mais malheureusement, je l'ai pas eu.
Ouais, c'est correct. Mais non, mais tu sais, des fois, à un moment donné, les choses font leur temps.
Mais c'est là que ça m'a poussé. Bon, j'ai dit, gars, moi, je retourne à l'université. Alors là, le choix, ça a été l'UQAC. Avec un nouveau programme qui démarrait, le bac en sciences sociales. Le bac en sciences sociales avait été pensé par des hommes comme Adam Lapointe, Roland Charbonneau, Jean-François Morancy, des profs qui croyaient au développement régional. Puis tu sais, le courant de développement régional commençait là, à s'établir au Québec. Là. Alors eux, ce bac-là était pour former ce qu'on appelait des agents de développement régional. Régionaux plutôt. Puis, dans le fond, c'était l'amalgame. On avait pris le bac en sociologie, le bac en politique et le bac en économie pour faire un amalgame de tout ça avec des concepts en développement régional. Donc, j'ai été dans la première cohorte de diplômés.
Ah, oui.
Notamment, que je te donne un exemple, un gars comme Camille Laforge qui était dans mon groupe. On a diplômé ensemble. Puis, une fille comme Joanne Simard, là, qui était...
députée.
Qui était conseil municipal.
Conseil municipal de Saguenay, oui.
Bon, fait que ça, c'est une formation que j'ai beaucoup appréciée.
Et puis là, c'est là aussi que tu dis que tu as commencé à militer, à t'impliquer socialement.
Oui, parce que mon stage que je devais faire en développement régional, je l'avais fait avec la gang du comité de protection de la Chamochouane. C'est là que j'ai connu Denis Trottier, Gérald Scolion, Marc Archer. Hey, donc, j'avais, moi, dans mon... il m'avait confié comme mandat de faire tout le dossier de presse, là, puis de délaguer, tu sais, les autres, ça faisait 5-6 ans qu'ils militaient, donc il n'y avait pas... Puis l'autre aspect, ben j'étais allée dans les différentes associations de riverains, là, j'allais leur présenter le diaporama de pourquoi il fallait s'opposer à la Chamochouane et tout ça. Donc, ça a été...
Est-ce que ça a été ton éveil à la cause environnementale ou tu avais déjà ça avant?
Pas mal mon éveil à la cause environnementale, oui. Je trouvais ça...
Parce que c'était un peu des extraterrestres, ces gens-là, à cette époque-là, là, de lutter contre Hydro-Québec.
Oui, oui. Puis, je me rappelle, Radio-Canada, que la Semaine verte était venue tourner. On avait descendu une partie de la Chamochouane en canot. Toujours avec cette gang-là pour expliquer pourquoi qu'il fallait conserver la rivière à Chapouchouan. Donc oui, ça a été... Puis ça a été complété parce que c'est dans ces années-là que j'ai commencé à sortir avec Christian qui, lui, était très impliqué sur le plan environnemental. Il y avait eu un comité d'environnement formé à Delbeau-Mistassini, puis c'était à Delbeau à l'époque.
Ouais.
Puis c'était pas mal une des municipalités, là... c'est précurseur pour mettre sur pied des comités d'environnement. Fait que, tu sais, ça m'a comme... Fait que ça nous amène... Moi, je diplôme en 1982. Je suis amoureuse de Christian. On veut se marier. Christian a pas de job stédé, a des contrats un petit peu comme ça. Donc là, je veux avoir une job, hein, parce qu'on veut faire notre vie ensemble, puis ça prend deux revenus. Puis, donc là, il y a un poste qui s'ouvre. Je suis agent de développement régional. C'est un nouveau cours qui n'est pas connu. Je suis dans la première cohorte de diplômés. Donc, il y a un organisme qui s'appelle Logeons-nous nous-mêmes, allemand, qui s'occupe de cohortes d'habitation. Puis, ils ont besoin d'un agent de développement. Et... En 1982, la situation était difficile. C'est l'époque là, où les taux d'intérêt ont monté en flèche, où l'emploi était très rare et tout ça. Bon, je me souviens que pour cette job-là, là, il y avait eu à peu près 187 applications pour un petit job d'agent de développement pour des coops d'habitation. Puis on en engageait deux. Fait que, semble-t-il que j'avais été... assez marquante à l'entrevue. Tu sais, j'avais aucune sortie d'université. J'avais travaillé dans un restaurant. J'avais travaillé dans un bar à l'éphémère à Delbeau à l'époque, un petit bar jazz. Donc, aucune expérience, sort de l'école. Mais semble-t-il qu'à la fin de l'entrevue, je leur avais dit, je le sais, j'ai pas d'expérience, mais donnez-moi ma chance. Vous allez voir, je vais vous le montrer. Je suis capable de faire ça. Puis c'est ce qui avait convaincu, là. Il avait dit... J'en voulais tellement, là. Je m'étais quasiment mis à genoux. J'avais dit, donnez-moi là, puis vous ne le regretterez pas.
Puis l'ont-tu regretté?
Non. je pense pas. Parce que j'ai été 5 ans là, on a fait de beaux projets, notamment à Delbeau. C'est moi qui ai fait le projet de déménager la vieille gare, prendre ça, l'amener sur le terrain qu'elle est actuellement, là, pas loin, aux abords de la polyvalente Jean Delbeau, transformer ça en logement... paquet d'aventures qui s'est arrivé là-dedans. Ça, puis aussi avec la coopérative de développement régional, travailler un petit peu là-dessus. Donc, ma carrière a commencé dans la coopération.
Wow!
L'apparition des télévisions communautaires autonomes coïncide avec l'implantation des câbles distributeurs au Québec. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada souhaitait à cette époque que les ondes soient partagées avec les citoyens. C'est donc par obligation et par la réglementation de cette instance qu'ont vu le jour les canaux communautaires. Elles ont su s'adapter à l'ère du temps pour proposer du contenu touchant à toutes les clientèles, et ce, depuis près de 40 ans. Ainsi, les citoyens ont désormais la chance d'accéder et de participer aux débats de société. Les TCA ont pour mission d'encourager la participation des différents milieux auprès des médias locaux et de représenter les membres qui composent sa communauté. L'accessibilité à un contenu télévisuel qui les concerne directement reste encore à ce jour l'élément le plus important pour les citoyens de la province. Nous pouvons dire sans hésitation que les canaux communautaires sont des médias de proximité.
Les organismes Famille et la MRC de Maria-Chapdelaine, en partenariat avec les chambres de commerce de Delbeau-Missassini et Normandin, sont fiers de lancer la campagne Certifiée Famille. Un sondage réalisé à l'hiver 2019 auprès des familles du territoire a permis de démontrer que l'élément essentiel pris en compte par les familles lorsqu'elles fréquentent les différents commerces est l'accueil chaleureux qui leur est réservé lors de leur visite. Un accueil chaleureux, c'est avant tout de s'assurer que tous les employés abordent les familles avec une attitude bienveillante. C'est aussi faire de petits gestes aussi simples que de donner accès aux toilettes sans obligation d'achat, autoriser l'utilisation du micro-ondes pour faire chauffer un biberon, permettre à une maman de s'asseoir dans un endroit calme pour allaiter, dégager les allées afin qu'une poussette puisse y circuler aisément. Les commerçants ou les responsables d'une organisation qui souhaite attirer et fidéliser une clientèle famille peuvent demander gratuitement la certification. Une vignette autostatique est visible chez les établissements qui se qualifient aux modalités suivantes. Une attitude positive et accueillante des employés envers les familles et les tout-petits et la poursuite des efforts pour améliorer l'accessibilité des familles. Vous souhaitez être certifié famille? Contactez-nous au 418-276-6677. Surveillez les entreprises certifiées famille ou retrouvez-les sur les médias sociaux à l'aide du mot-clic « Certifié famille MC ».
Est-ce que tu sentais déjà que tu allais réaliser des grandes choses? Parce que c'est une époque où Les femmes en poste de pouvoir étaient peut-être moins fréquentes qu'aujourd'hui. Malheureusement, là, on est en train de changer ça. C'est pas encore l'idéal, mais ça va mieux. Est-ce que tu sentais déjà ça, que tu allais avoir...
Non. Sauf que il y a peut-être un élément, là. Bon, là, ça, on se ramène. J'ai été là jusqu'en... 1988. En 1988, 1er janvier, j'accouche de mon fils. Je l'ai eu le 1er janvier.
Ah, ouais.
Oui, alors... Et je suis toujours à... Et là, j'avais des dossiers à l'agence de nous-mêmes. J'ai travaillé jusqu'au 1er décembre. Entre-temps, arrive, à l'époque où Benoît Bouchard est ministre du conservateur du comté Robert-Val, il met sur pied ce qu'on appelle les comités d'aide au développement des collectivités. Les deux premières qu'il crée au Québec, c'est Domaine du Roi et Maria Chapdelaine. J'applique sur le poste pour être... pour avoir la direction du comité d'aide au développement des collectivités Maria Chapdelaine, je l'ai. J'ai la job, je commence le 14 février, j'ai accouché le 1er janvier, ça décolle, ça y va.
Ça décolle vite.
Oui, ça décolle vite. Une chance que j'avais un chum, là, qui, puis une mère aussi, qui était très compréhensive pour ça. Et ça, là, ça a été... bon, d'abord, il fallait faire un portrait socio-économique de la collectivité. Il fallait être capable d'identifier les potentiels de développement. Et ça, là, ça a été... j'ai brassé ça pendant 5 ans. Ça a été magique, des conseils d'administration. J'ai fait dans presque tous les villages à l'époque de la MRC Maria Chapdelaine, des sommets socio-économiques. On allait passer une journée. Moi, je faisais le portrait socio-économique. Je lui présentais ça. Voici votre pyramide d'âge. Voici vos indicateurs, taux de chômage. Nanana, on expliquait ça. Après ça, les gens parlaient. Puis on identifiait des projets. Puis après ça, on faisait un plan d'action. Donc, ça a été vraiment...
très formateur pour
très
toi.
Très formateur, oui, oui.
Parce que maintenant, tu as vu que dans le processus décisionnel, il y a beaucoup de choses qui viennent avant ça pour être capable de faire le tour de la question puis prendre une décision éclairée.
C'est ça. Puis, comme je te dis, c'est toujours en termes de développement régional et local. Tu sais, là, on commençait à parler de la roue, de la les villages, là, étaient complètement... Tu sais, les villages perdaient leur école, perdaient leur épicerie, perdaient leur caisse populaire. Fait que là, c'était pour ça que les sommets socio-économiques, ben ça permettait, en tout cas, de dresser d'abord un état de situation qui, pour la plupart des cas, était très sombre. Là. On arrivait dans des villages, les taux de sous-scolarisation, taux de chômage, taux d'inactivité, c'était tout à terre, ça, là. Donc, je te dis pas que c'est ça qui a fait... au moins, la prise de conscience du fait qu'on ne pourrait plus être dépendant de la grande entreprise qui nous délaissait peu à peu.
Ben oui. Hein? Oui, puis c'est ce qu'on voit aujourd'hui, d'ailleurs. C'est ça. L'économie, c'est les PME, c'est plus la grande entreprise qui...
Tu sais, avant ça, hors de la grande entreprise, point de salut, tous les parents, les pères, ça voulait tous travailler pour Alcan, Domtar. Mmh. Mais le jour où ils sont mieux à créer d'emplois, ben, il a fallu qu'on vise sur la dynamique locale et régionale. Donc ça a été une bonne affaire. Cinq ans à faire ça, comité d'aide, puis il y avait le centre d'aide aux entreprises qu'on a créé. Il y avait un fonds qu'on aidait les entreprises pour la création d'entreprises. D'ailleurs, maintenant, c'est SADC, mais ça existe encore. Ça existe encore. Ils donnent encore des services. Donc, les deux premières, non seulement au Québec, parce que ça, c'était pan-canadien, c'était le fédéral, ça. Oui. Alors, les deux premiers... directeur, directrice, c'était à Domaine du Roi puis Maria Chapdelaine. On était les deux premiers. Puis ça, moi, ça, à un moment donné aussi, comme j'étais un peu la première, puis qu'on avait fait des réalisations, à un moment donné, on a eu, comme avec les années, comme une espèce de fédération des SADC, puis je suis devenue présidente de tout ça, puis bon, en tout cas, à travers le Québec, là, puis...
T'attires ça, on dirait, on dirait que les gens...
Peut-être, mais tu sais, j'ai un grand talent, comme ça.
Non, puis t'es excessivement sympathique. Tu te fâches-tu des fois?
Oui.
Parce que moi, je te connais on te connaît pas de proche, mais je te connais depuis longtemps, puis il me semble que t'es toujours...
Mais tu sais, j'ai un grand talent. J'aime ça diriger, j'aime ça être leader. Fait que pas pour le pouvoir, pour le plaisir là, de
changer les choses.
Moi, changer des choses, oui.
Mais là, à ce moment-là, là, si je te suis... Tu as commencé à enseigner aussi au Cégep
de Saint-Félicien. Oui, alors ça, mettons SADC de 1988 jusqu'à 1993. 93, en janvier 93. Denis Trottier, qui avec le temps était devenu un bon ami, enseignant au cégep. Il dit, Guylaine, il y a un prof, on a besoin d'un prof en sociologie au cégep de Jonquière. Ben, j'ai dit, écoute, ben, moi, j'ai jamais fait ça, enseigner, je sais pas c'est quoi, mais il dit, garde, toi, t'es en sciences sociales. T'as... Ben, oui. J'ai dit, je pense que oui, je serais capable. Puis, bon, fait que finalement, j'applique sur le poste, je l'obtiens. Au début, c'était, ben, en fait, c'était juste pour donner un cours. Défis sociaux et transformation des sociétés. Tu étais dans ma classe à cette époque-là?
Ben oui, parce que moi, j'ai... Non, mais c'était ma question, parce que moi, dans ma tête, t'enseignais avant ça. Parce que moi, j'ai quitté à l'été 93, j'ai fini mon cégep, parce que je suis rentré à l'université en 93.
Ça veut dire que tu m'as eu comme première expérience. Fait que...
Je n'avais jamais réalisé ça.
Ben, pourtant, je devais être assez... Mais j'ai tellement... Puis, gars, je continue.
Mais j'ai des très bons souvenirs.
Au début, ils me disent, bon, Mme Proulx, vous avez un cours. Il m'arrive deux jours après, deux autres cours, mais trois préparations, parce que je donnais aux étudiants de sciences humaines, défis sociaux et transformation des sociétés, probablement que toi, tu étais là-dedans. Mais là, ça amène sociologie de la famille, sociologie de la santé. Écoute, ça, cette session... Ouais, là, en soins infirmiers. J'ai relevé le défi. Mais écoute, trois préparations de cours, on avait une salle à manger, la table de la salle à manger pendant toute la session, c'est des piles de livres, puis c'était pas, tu sais, on n'avait pas tout sur Internet à cette époque-là. On allait, fallait lire, puis là, faire des petites fiches pour
faire
des acétates, préparer nos cours. Oh, en tout cas, mais bref, ça a été concluant. Je suis restée... j'ai été 15 ans au cégep de Saint-Félicien, un merveilleux cégep. Puis l'enseignement, j'aimais ça, sauf que moi, là, quand j'ai été embauchée, il y avait comme un baby boom là, au cégep de Saint-Félicien. Écoute, à l'époque, si ma mémoire est bonne, là, il y avait 8 groupes en sciences humaines. Fait qu'il manquait de profs. Présentement, je pense qu'en tout cas, quand j'ai... Bien, 5 ans après, là, j'ai jamais eu ma permanence comme enseignante. Jamais. Je n'ai jamais eu de permanence de ma vie.
OK.
Parce qu'après ça, quand t'es cadre, t'as comme pas de permanence.
Oui, c'est ça, c'est ça.
Fait que jamais.
Hey, c'est particulier, ça, parce que moi, j'ai toujours cru que quand je suis arrivé au cégep, t'étais déjà un meuble. Excuse-moi, là. Non, mais tu sais que t'étais là, tu m'enseignais, mais c'était la première fois que t'enseignais. Non. Puis moi, j'ai toujours pensé que t'étais une enseignante de formation, d'ailleurs. Ben, je peux me tromper.
Non.
C'est
tellement
arrivé
vraiment,
par hasard.
Oui, c'est arrivé par hasard. Puis J'ai adoré ça. Sauf qu'au bout de 5 ans, j'ai pas de permanence, je suis la dernière arrivée. Écoute, je suis dans une situation où j'ai un cours, pas pour la session, j'ai un cours pour toute l'année. Bon. Là, ce qui est arrivé, c'est que j'avais commencé à m'impliquer dans le syndicat du personnel enseignant. Le syndicat m'a dit, « Gars, Guylaine, on aimerait ça te garder. Si tu prenais la présidence du syndicat, ben tu serais à temps plein.
Ça ferait de la libération.
On te donnerait la libération. La seule affaire, je ne pourrais pas accumuler de l'ancienneté parce que, tu sais, je n'enseigne pas. Bon, fait que je l'ai fait jusqu'au mois d'octobre, jusqu'à temps que mes patrons, notamment Régent Lavoie, qui était directeur des ressources humaines à l'époque, me dit, Guylaine, on aurait besoin de toi au service d'aide aux entreprises.
OK.
Comme conseillère en développement local et régional. Entre autres, ils avaient besoin, c'était l'an 1 de la Véloroute des Bleuets, puis ils avaient besoin d'une conseillère pour faire l'étude d'impact sur quelle était la...
Puis là, ça, c'était plus ton domaine, en fait.
Oui, oui, c'était mon domaine. Fait que là, ben écoute, là, comme j'avais pu... donc là, je suis rentrée au centre d'aide aux entreprises pendant presque 5 ans, c'est ça. Puis là, j'ai fait l'étude sur la Véloroute. J'ai eu des contrats rue principale à Saint-Félicien, fait des AEC pour les Autochtones à Mastouillac. Et un peu ce que j'ai initié, là, puis que j'ai monté par moi-même un AEC en développement local pour aider les comme j'avais travaillé là-dedans,
oui,
ça avait
teint.
Puis à l'époque, j'étais présidente du Carrefour québécois de développement local sur l'ensemble du Québec. Là.
En même temps, là.
En même temps. Fait que, bon.
Parce que tu n'avais jamais lâché ça, là. Même pendant que tu étais enseignée, tu continuais de t'impliquer dans ta communauté.
Je continuais de m'impliquer dans ma communauté. Puis là, je suivais le courant là, du professeur Vachon, de Roméo Bouchard, les États généraux sur la ruralité. Puis je m'intéressais. Puis là, j'avais la belle job pour ça, là, conseillère en développement local. Et, puis c'est ça, là, je suis devenue présidente. Je suis même allée faire un stage en France pour échanger des pratiques avec des communautés françaises. Bon, tout ça pendant 5 ans. Après 5 ans, il se libère un poste de cadre au cégep de Saint-Félicien. Directrice adjointe aux études, directrice des programmes d'études.
Ouais.
Adjointe au directeur des études. Alors, bien sûr, ça m'intéresse. J'applique, j'ai le poste. Fait que là, je suis...
As-tu déjà appliqué quelque part puis que tu n'as pas eu la job?
Oui, c'est arrivé une fois.
Non, mais c'est une question.
Non, puis les concours... Moi, là, je suis passée, notamment pour ce job-là au cégep, comme directrice des études, on en parlera tout à l'heure, à Jonquière, comme directrice. J'ai passé 3 fois à l'ENA. Tu sais, la grosse affaire, test psychométrique, simulation d'intervention, des journées complètes. Ah, ouais. Fait que j'ai passé 3 fois ça. Moi.
À chaque fois,
fait que, tu sais, j'ai pas eu de... Les gens peuvent pas dire, « Ah, t'es chum, mais non, non. » Puis, tu sais, j'avais les résultats, puis les résultats étaient là.
T'as créé ton succès.
Oui, un peu, oui. Bon, bref, je tombe adjointe directrice des programmes, puis, écoute, avec Gilles Lapointe, ouais. Avec Louis Lefebvre, Régent Lavoie, on était une belle équipe. J'adorais ce que je faisais. La seule chose, ben c'est que j'étais un peu ambitieuse, puis... Gilles Lapointe, puis Louis Lefebvre, puis moi, on avait toutes la même âge. Fait que, tu sais, je pouvais pas devenir directrice des études, puis je pouvais pas devenir directrice générale. Donc, un jour, je vois, puis ça donnait bien, parce que mon chum avait un contrat de 5 ans. Mon chum, lui, était dans le domaine conseiller en santé, sécurité au travail, sur okay. Les chantiers de construction, puis il venait d'obtenir là, un contrat de 5 ans pour Rio Tinto. Il était déjà à Jonquière. Donc, je vois passer le poste de directrice des études à Jonquière.
Fait que, directrice des études,
ouais,
pas directrice générale.
Oui, j'ai commencé. Ça, c'est ouais. Là, on se rapporte en 2007. Là, j'étais en 2007. Alors, il y a un poste de directrice des études. Je postule, puis je l'obtiens. Fait que, avec, puis c'est un petit peu, là... bon, tu sais, quand on est hors-cadre dans les cégeps, puis il y a 2 hors-cadres, le directeur, directrice des études, le directeur général. Alors ça, c'est sans aucun filet de sécurité. Oui, un contrat de 3 ans. Puis si ça fait pas, ben tu retournes chez vous. C'était quand même un pensée bien à l'époque.
Parce que là, il faut tout que tu déménages tes
oui, joies, oui, là, oui. Puis là, à l'époque, j'ai 47, 48 ans. J'approche de la cinquantaine. Mais bon, tu sais, je me fais confiance. Je me dis, regarde, tous les jobs que j'ai menés jusqu'à date, j'ai toujours réussi. Fait que ça devrait fonctionner. Puis le cégep de Saint-Félicien m'avait donné un congé de 3 mois. C'était pas... Tu sais, j'avais 3 mois pour me décider. Si j'aimais pas ça, ben je pouvais réintégrer mon poste, mais garde 3 mois, c'est pas beaucoup. En plus, on arrivait à Jonquière là, avec c'était un nouveau directeur général, Michel Gravel. On arrivait presque tous les cadres, les directeurs avaient été changés. On arrivait à une équipe renouvelée. Puis à un moment où le collège vivait un petit peu une bassesse là, au niveau de son service de formation continue, puis aux entreprises, il y avait eu une baisse. On commençait à connaître la rareté de la clientèle ouais, dans les bons.
Dans les
fait
régions.
Que, et là, avec Michel Gravel, que j'ai beaucoup apprécié, on a fait une équipe du tonnerre. On est arrivé, on a fait une planification stratégique. On a fait tous les départements de profs, toutes les directions, toutes les instances. On a fait parler les gens, qu'est-ce qu'on devrait faire. Donc, ça a été super.
T'avais-tu l'impression de revivre la même effervescence que quand t'étais parti étudier là-bas? T'sais, parce que c'est un retour pour toi dans cette institution-là.
Bien, je te dirais là, que quand, en 2007, je suis arrivé puis j'avais la job, puis Michel Gravel, il m'a dit, « Bon, la première affaire, Guylaine, qu'on fait, on se promène, je vais te présenter dans tous les départements, oui. Parce que la directrice des études, bien sûr, c'est elle qui est plus avec les enseignants. »
Oui.
J'ai repensé à la jeune fille qui avait rentré au cégep de Jonquière en 76. Puis, tu sais, c'est sûr que je me disais, qui aurait dit qu'un jour, que... Puis, écoute, comble aussi... J'avais encore des profs qui m'avaient enseigné au cégep de Jonquière à l'époque, oui, qui est encore là, qui a un petit... Hey, on se rappelait de toi, Guylaine, puis t'es devenue la directrice des études. Bon, fait que ça a été ça, ça a été vraiment là, une fierté. Ce cégep-là, que j'avais tant aimé fréquenter, dans lequel je me suis fait des amis, dans lequel j'ai eu toutes sortes d'activités rocambolesques, toutes sortes de comités, J'étais rendue au règne de ce... Tu sais, j'avais le... C'était magnifique, magnifique.
Alors... Tu sais, un moment donné, t'as dû t'asseoir puis te faire « wow », là. Tu sais, partir... En fait, ce que je comprends de ton parcours, c'est que... Sans dire que tu rêvais pas, mais tu sais, les choses se sont placées devant toi puis t'as fait des choix, tu sais. C'était pas... Tu savais pas vers où t'allais jamais, en fait.
Non, écoute, j'avais pas de plan de carrière de tracé. Mais la seule chose que je pourrais dire, c'est que je pense que j'avais, je pense que j'ai encore, une capacité d'adaptation, puis une capacité de, comment je dirais ça, en termes de prospective, être capable, tu sais, d'arriver à un nouveau poste, une nouvelle fonction de travail, dire, d'être capable de détecter qu'est-ce qu'il y a à changer, puis dire, regarde, on va mettre les mécanismes pour changer. Puis être capable d'entrevoir que ça va s'améliorer, puis vraiment une bonne capacité d'adaptation, puis un bon jugement, je pense, être capable de dire, regarde ça, bon, exemple, je te donne quand je suis arrivée comme directrice des études à Jonquière, la formation continue fonctionnait plus ou moins bien, donc tout de suite, je me suis attaquée à ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis ça, une des belles affaires que j'ai faites là-dedans, là, chaire de recherche en énergie renouvelable. Tu sais, guerre créneau d'avenir, à cette heure, tu sais, ça va bien. Oui. Mais les premières fois que les profs sont venus me parler de ça, les directeurs, Guylaine, t'es sûr? Oui, je sens que même j'avais envoyé un prof là, en Finlande aller voir des éoliennes pendant l'été. Je dis, oui, allez me rechercher des affaires. Puis, regarde, je pense que j'ai eu raison. Regarde, la chaire, ça fonctionne encore, ce job de Jonquière. Écoute, comment qu'on a formé des gens au Québec. Le seul cégep qui forme là-dessus. Donc, ça, là-dessus, un bon coup. Tu sais, peut-être cette espèce de capacité d'être capable de déceler des potentiels. Quelque chose qui s'en vient.
T'as du flair.
Oui, peut-être.
Mmh. Tu sais bien t'entourer, t'as du flair. Non, mais j'aime ça. Puis là, à un moment donné, le directeur général s'en va?
Oui, au bout de 5 ans, Michel, lui, prenait sa retraite. Fait qu'évidemment, puis ça m'intéresse. Fait que, donc, j'applique, puis j'ai le poste. Mais toujours par les grands processus de l'ENAP.
Ouais.
Puis écoute, des postes
d'or... Mais là, tu connaissais ça, là, tu savais ce que t'avais.
Ouais, mais des postes d'orcadre, là, c'est pas dans la poche. D'abord, il faut que tu passes à la commission des études. Les gens, les profs, les professionnels qui siègent à la commission t'interrogent. La première fois, la direction des comme directrice des études, là, mon entrevue a duré 3 heures de temps à la commission des études du cégep de Jonquière. Puis les questions fusent de toutes parts. Là, puis tu le sais pas, là, qu'est-ce qu'ils vont te demander. Là, puis bon, fait que même comme directrice générale, j'ai dû passer aussi à la commission des études. Et les deux fois, j'ai obtenu un avis favorable.
Wow.
C'était 10 belles années. Moi, ce que j'ai aimé du cégep de Jonquière, puis ça, ça me replaçait le temps que j'étudiais, c'est le cégep du communautaire. C'est le cégep qui est game de tout. C'est cégep qui... Puis ça, là, moi, je pense que j'ai été appréciée à la fois comme directrice générale puis à la fois comme directrice des études. Quand un prof avait un projet, tu sais, je disais pas « prends ». Des fois, je disais, regarde, t'as-tu le temps, là? Moi, j'ai 10 minutes. Descends, viens m'en parler. Je ne sais pas combien de profs, tu sais, d'ailleurs, pour les énergies renouvelables, c'est des profs qui sont venus me parler de ça. Je ne sais pas combien, mais ça, là-dessus, là, moi, c'était du carburant pour moi.
Oui, puis c'est ta force, en fait, d'être à l'écoute aussi des gens là, qui.
Tu sais, je ne te dis pas que ça a tout le temps. Des fois, des affaires, là. Tu sais, comme on avait essayé de développer un moteur électrique puis avec une firme qui... Bon, ça a floppé. Ouais. J'ai mis qu'un petit peu d'argent là-dedans. J'avais dégagé des... Bon, mais sur le loin.
Tu as essayé des choses. Parce que si on veut réussir, il faut en essayer aussi.
C'est ça.
Mais ça amène ta force. Puis c'est vrai que... Moi, j'enseigne là au cégep de Jonquière. Puis c'est vrai qu'au cégep de Jonquière, quand tu as un projet, tout le monde tente de t'aider.
Oui.
Pas certain que ça va marcher, mais tu sens que les portes s'ouvrent, par exemple.
Puis ça a été un petit peu plus difficile. Puis ça, c'est ce qui... Je dis pas c'est ce qui m'a incité à prendre ma retraite, parce que j'avais dit, je vais faire le mandat de 5 ans, puis par la suite... moi, là, j'ai terminé les années où c'est les années couillard, dans lesquelles les compressions budgétaires, écoute, ça a été l'enfer. J'avais un budget de 55 millions, il fallait que j'en coupe 3 millions. Pas compliqué, là.
Ouais.
Puis c'est pas facile parce que, tu sais, t'as 85% de ton budget qui est conventionné. C'est des salaires de profs, de professionnels, de... Fait que où tu
coupes? Pas beaucoup d'espace.
Ben ça, en tout cas, on a réussi. J'ai fait une tournée départementale. On allait dans un département, je sais pas si t'étais là. Ben comment est-ce qu'on pourrait faire avec deux leitmotivs? On va couper, mais on va essayer de garder le service aux étudiants.
Okay.
Puis pas couper dans la pédagogie. Mm-hmm. C'est dans les outils pédagogiques et tout ça. Fait que, bon, là, ça doit être plus plaisant de gérer. Malgré que la pandémie, ça doit être difficile. Mais il y a eu du réinvestissement. Ouais. Mais écoute, c'était rendu là, qu'on comptait l'achat du papier de toilette. Là. C'est pas compliqué. Là, couper 3 millions, c'est 55 millions.
Non, puis ça l'a amené, j'ai l'impression, une espèce de dialogue. Moi, je trouve qu'il y a de je dis pas que c'est... Bien, je pense, là, je t'attribue ça, mais il y a une espèce de beau dialogue à l'intérieur du cégep qui était là, d'ailleurs, quand tu étais là. Est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient directrices générales de cégep à l'époque?
Bien, au cégep de Jonquière, j'ai été la première et la seule. Il n'y en a pas encore. Je te dirais, moi, au forum de mon 48 collège public, au forum de DG, quand j'ai quitté, je dirais que c'était à peu près 70-30. 70 % d'hommes, 30 %
Est-ce que, là, je trouve ça plate de parler de ça, mais c'est une question, parce qu'on ne devrait plus en parler, là, ça devrait être, ça a des repères de problème avec ça, mais est-ce que tu as eu des, comme femme, est-ce que tu as été confrontée des fois à cette réalité-là, puis de sentir qu'on pensait que tu serais pas capable parce que c'était une femme, ou toi, tu as toujours su que ça allait fonctionner?
Je pourrais pas dire que j'ai été malmenée par ça, mais c'est sûr que j'ai des exemples où... Bon, je te donne un exemple, le temps du CADC. J'étais directrice générale, on avait mis sur pied un centre d'aide aux entreprises. J'étais allée chercher un directeur. Bon, tu sais, lui, il dépendait de moi. Le directeur, là, quand lui, il est embauché, ils ont donné automatiquement 5000 pièces de plus que moi. On avait le même niveau d'études, on avait le même art. Ah, ben lui, il a une famille à faire vivre. Bon, fait que mes gars, puis ça, c'est en... Voyons je là. Parle de... entre 90-91, là. Donc, en partant, lui, il avait eu 5000 $ de plus que moi. Bon, ça, c'est une question d'argent. L'autre affaire, une affaire niaiseuse. Tu sais, dans ces comités-là, on était invités. Les galas de la Chambre de commerce, les activités bénéfices. Le conseil d'administration du centre d'aide, s'il achetait deux billets pour le club Richelieu à 100 piastres, il achetait deux billets pour le directeur puis un pour sa femme. Oui. Parce que sa femme, elle va l'accompagner.
Oui.
Moi, là, il n'achetait juste un. Mais je disais, moi, j'en ai un conjoint. Ben là, on ne paye pas pour les comptes.
Hey.
Oui. Puis c'est pas si vieux que ça, là.
Mais non.
Là, je suis obligé de dire, mais regardez, mon collègue, vous y payez deux billets puis moi, il va falloir que je débourse. Bon, regarde, c'est
des pas des grosses affaires, mais ça devient des irritants.
Oui. Je me suis fait dire un moment donné, écoute, à un forum des DG à Montréal, il faisait beau, on va sur une terrasse, puis un DG que... Moi, c'est sûr, tu sais, j'étais bien de chum avec Louis Lefebvre, qui était... Fait que Louis m'intronisait un peu dans les premiers temps. Alors, je vais prendre une bière sur une terrasse, sur un bar, sur la rue Saint-Denis. Carrément, il y en a un qui me dit, on était-tu bien quand il n'y avait pas de femme comme DG? Puis là, il y a un gros rire gras, là, tout le monde l'a regardé. Bon.
Ouais, c'est des gens d'une autre époque.
Ouais.
Mais t'as quand démontré. Même, ben oui, quand même pas si mal. Tu as fait ton chemin.
Oui, quand même pas si mal. Pas si mal. Non. Je pourrais pas dire que j'ai été maganée par ça.
Puis là, ben, après, tu décides de prendre ta retraite après ça.
Oui, bien, d'une part, moi, ça fait 15 ans, ça faisait 15 ans à l'époque qu'on avait un chalet ici à Péribonca. Ça, nous autres, Christian est un gars de Delbeau aussi. Ouais. C'était écrit dans le ciel que nous autres, c'était à Péribonca qu'on s'en venait. Au début, on avait parlé de se construire en neuf, mais finalement, ben, il y avait cette maison-là qui appartenait, qui était avant. Puis, gars, on a eu un coup de cœur, puis on l'a acheté. Fait que là, mon chum, puis on a une différence d'âge, on a 10 ans. Je me dis, il n'y a pas juste, tu sais, gars, j'ai donné, j'ai quand même, puis tu sais, sans dire toutes les... J'ai été chanceuse parce que moi, à tous les 5 ans, là, ça changeait. Tu sais, 5 ans dans un coop d'habitation, 5 ans au SADC, 5 ans prof, 5 ans... Ma carrière a été quasiment tout le temps quinquennale.
Fait que t'as pas eu le temps un peu de te blaser de quoi que ce soit parce que t'avais toujours de nouveaux défis.
Non. Puis... Peut-être que je me serais tannée, moi, tu sais, de tout le temps...
Est-ce que c'est ça que tu recherchais, toi, ou t'as l'impression que ça arrivait?
Ça arrivait, Mais je pense que c'était bien pour moi, parce que j'aime le changement. Fait que, tu sais, ça a comme bien fait. Tu sais, j'ai jamais eu le temps de dire m'écœurer d'une job. Tu sais, 5 ans, c'est une belle période pour...
Pour
au début, là, t'as le feu sacré. Parce que faire une job si t'as pas le feu sacré, puis... En tout cas, moi, j'ai été vraiment privilégié parce que j'ai tout le temps eu des momentum qui a fait que j'ai jamais souffert d'une écœurantite de job. Là.
Non, puis tu as eu des jobs stimulants, tu avais des défis professionnels réels. Oui.
Fait que ça, c'est super. Fait que là, arrive le temps de la retraite. Tu sais, mon chum, lui, est à la retraite, puis il est installé ici. Bon, je prends ma retraite en décembre. Comme par hasard, il y a une conseillère municipale qui a quitté.
OK.
Bon, fait que ça m'intéresse. Puis en même temps, je me dis, ben gars, ça va me faire une petite activité. Je suis pas, tu sais, je suis pas trop habitué de rester dans la maison.
Ben oui,
moi,
ben
puis,
oui, c'est ça. C'est
pas mal. Là. Bon, fait que là, il reste un an, j'ai fait ça. Ça m'a permis de... Fait que là, j'ai resollicité un autre mandat et là, je termine ma quatrième année. Et là, arrive le beau projet. D'Espace Péribonka.
Ben oui, qui est là.
Déménagement du musée, caserne de pompiers. J'ai du temps, je suis à la retraite, j'ai une certaine expérience en gestion de projet.
T'as des contacts.
Écoute, je rentre à plein pied là-dedans et je suis très heureuse. Parce que ça marche, puis ça fonctionne.
Là, t'as l'impression aussi. Tu sais, Mané, t'as dû avoir l'impression que c'était un peu bloqué. Ou est-ce que ça va débloquer? Mais là, on sent que c'est parti.
Oui, c'est parti. Ça a été long, mais. Puis, tu sais, c'est un défi. Une population de 4, pas tout à fait de 500 habitants. Un projet de 13 millions.
C'est beaucoup d'argent.
Il va tomber 10 millions en subvention, là, ici. Là.
Oui, oui.
Fait que, bon, fait qu'écoute, je suis. C'est beaucoup de travail. Mais écoute, je suis. Les gens avec qui je siège au conseil, c'est le fun. Il n'y a pas d'animosité, ça va bien. Le conseil d'administration du musée, les gens de la corporation de développement économique ici, le personnel de la municipalité. Écoute, il y a une belle synergie, ça travaille ensemble, puis on est en train de réaliser ce beau projet-là. Ah, puis j'en ai d'autres à propos de ça. Après.
Mais là, ma dernière question va être comme en deux parties. Là. Quand tu regardes, quand Guylaine, là, regarde en arrière, de quoi elle est plus fière? Y a-t-il quelque chose qui pour toi, là, dans toute cette carrière prolifique, là, quand même, qui te rend plus fière que d'autres? Ou finalement, non, tu as juste le sentiment du devoir accompli partout où tu es passé?
Je dirais que j'ai pas vraiment... Bon, c'est sûr qu'on est toujours plus dans... C'est sûr que la concrétisation de ce qu'on est en train de faire, là, ça, si je réussis, là, comme dans les paramètres financiers, c'est sûr que ce sera... Mais j'ai toujours eu la satisfaction du devoir accompli. Puis quand j'ai quitté un emploi pour un autre en disant, j'ai donné le meilleur de moi-même, puis je me suis investi.
Mm-hmm.
Puis bon, peut-être des fois même au détriment de ma famille, tu sais, j'étais un peu work-alcoolique,
Mais je pense que ton conjoint
t'accompagnait là-dedans. Oui, bien ça, là-dessus, j'ai eu un conjoint qui, tu sais, jamais qui a dit à Glenn, là, c'est assez, il m'a toujours encouragé. Mon fils aussi avec les années, puis je pense qu'il était fier de ce que je réalisais. Pas toujours facile, tu sais, quelqu'un qui a un grand talent comme ça, puis qui brasse, puis ici, là, le téléphone sonne sans arrêt, et, mais bon, ils sont habitués à ça.
Oui, tu peux t'aimer ça quand ça sonne. Et là, fait que là, t'as regardé en arrière, puis là, si on regarde en avant, là, t'as ce projet-là, Péribonka, qui est là. Qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que t'as déjà d'autres projets que t'aimerais réaliser, des choses que t'aimerais accomplir, que tu dis, tu sais, quand on se dit, quand on est jeune, là, quand je vais être à la retraite, je vais faire ça. Là, t'es là, là. Bien, t'es pas vraiment à la retraite parce que t'as plein de projets, mais y a-tu des envies qui t'as de te dire, moi, là...
Moi, ce que je souhaiterais, c'est d'aller à la mairie. Parce que, tu sais, là, depuis un an et demi, ils m'ont nommé pro-maire parce que, tu sais, il fallait que je mette 15-20 heures. Le maire, notre maire, c'est un bon maire. C'est un agriculteur. Il n'a pas beaucoup de temps, puis c'est sûr qu'il ne pouvait pas... Bon. Fait que là, si je veux terminer le projet, mais j'aimerais mieux, tu sais, avoir les poudées franches, puis être à la mairie, parce que...
Oui, ça serait plus facile.
Là, écoute, j'attends, je sais pas si mon maire va se représenter. S'il se représente, c'est un peu plus tannant, tu sais, c'est un goulet, une grosse mouche, pas une fille de paix. Bon, en tout cas, regarde, j'attends de voir qu'est-ce qu'il va faire. Mais
Mais ça, mais t'aurais de l'intérêt pour ça.
J'aurais de l'intérêt. Pour terminer le projet.
Oui. Juste pour terminer le projet. Pour, ouais, pour
terminer le projet, parce que, gars, on est encore jusqu'en 2023.
Ouais.
Aussi, gars, il faut refaire là, la promenade, je veux faire les abords. Ouais, ouais. Les touristes disent qu'ils n'ont pas d'emploi, pas d'endroit pour se baigner. Écoute, il y a dans les cartons un tronçon de piste cyclable, Péribonka, Saint-Augustin, hors piste. Écoute, là, Sky, il y en a des projets. Je veux que la bibliothèque devienne la bibliothèque axée sur la littérature québécoise, qu'on puisse faire venir des groupes de partout du Québec, qu'on fasse des lancements, des ateliers d'écriture. Écoute, Lou Aymon, il faut surfer là-dessus. C'est Maria Chapdelaine, c'est le roman qui a été le plus lu dans tout le monde.
Ben, qui a mis, en fait, la Lac Saint-Jean sur la carte du monde aussi, là. Qui est important, tu sais.
Puis c'est le seul musée qui est axé sur la littérature québécoise. Mmh. Fait que là, moi, là, on peut faire du pouce en tabarouette là-dessus.
Ben oui, oui, non, puis c'est important, là. Moi, je c'est important de le mettre en valeur, tu sais, puisque même les Européens, moi, j'étais allé à Brest voir la petite plaque de Wemo.
J'étais allé aussi, moi.
Voir ça, mais ça reste quand même une fierté par rapport à chez nous.
Il y a mon leitmotiv ici, puis avec les plans, c'est nature et culture. Avec l'auberge L'Île du Repos, avec le musée, avec la bibliothèque axée à la littérature québécoise, on peut... Bon, tu sais, il y a du tourisme qui est axé sur, je sais pas moi, le sport ou bien, regarde, nous autres, c'est la culture.
Ben oui, ben non.
Parfois, taillant en avant.
La nature est tellement belle.
Ben oui.
La culture, elle fait partie de l'histoire. Fait que c'est facile. Fait que t'as encore plein de projets, là.
Oui.
Mais ça, c'est les projets pour Péribonka.
Oui.
Mais pour Guylaine. Est-ce que Guylaine a des projets personnels qu'elle a le goût de faire? Quand
bon,
tu y penses?
Pas vraiment. C'est sûr, un peu comme, tu sais, j'aurais voulu apprendre, tu sais, parfaire mon anglais. Gars, j'ai essayé. Pourtant, on avait une école de langue. Mais, gars, j'ai pas la tête à ça. J'ai tout le temps. On n'apprend plus à 60 ans. Donc, j'ai oublié ça. J'aurais voulu apprendre le piano. À la place, je me suis taché un cajon. Je fais de la percussion.
Bon, tu fais de la percussion. Bon,
ouais.
C'est hot.
Ouais. Bon, je suis encore plus sur les projets communautaires. Là.
Mais ça peut-être... t'a jamais quitté, ça, en
non,
fait.
Non, mais peut-être que j'ai développé, exemple, le jardinage. Ça, tu sais, je n'avais jamais eu le temps. Ça, j'adore beaucoup ça, là, maintenant que je suis à la retraite. Là, j'aime ça. Oui.
Fait qu'elle est encore active pour plusieurs années. On l'espère.
On l'espère.
Merci, Guylaine. Tu viens d'une génération de femmes où c'était des fois peut-être plus difficile. Aujourd'hui, je pense que ça a changé, du moins je le souhaite, mais puis t'as démontré par justement là, par des projets puis par ta détermination puis qu'on est capable de bien s'entourer. We'll be right back.